Alexandre Dumas, mon dictionnaire de cuisine, lettre B. Bœuf. On se plaint de la décadence de la cuisine. Cette décadence est bien plutôt l'œuvre des maîtres que des serviteurs. Autrefois, les grands gastronomes comme le maréchal de Richelieu, le duc de Nivernais et le comte d'Escure faisaient une fois au moins par semaine venir leur maître d'hôtel pour lui demander où on en était des découvertes culinaires. Les conversations savantes entre le maître et le serviteur faisait avancer à grands pas la science gastronomique en mettant le maître en face de la grande pratique et le cuisinier en face de la grande théorie. Quand monsieur le duc de Nivernais était obligé de changer ses chefs de cuisine ou qu'il avait appris quelque nouveauté qui lui paraissait admissible, il avait la patience et la conscience de s'en faire servir et d'y goûter 8 jours de suite afin de conduire et de faire aboutir la chose au point de sa perfection. Il avait le palais tellement bien exercé qu'il pouvait distinguer si le blanc d'une aile de volaille provenait du côté du fiel. Quant à monsieur de Richelieu, c'était le côté pratique surtout qu'il connaissait mieux que le meilleur maître d'hôtel. Une anecdote est parfois plus probante qu'une règle de trois. C'était la guerre de Hanovre, où le pays se trouvait dévasté tout autour de l'armée française, à plus de 80 km à la ronde. On avait fait prisonnier tous les princes et toutes les princesses d'Ostfriese, au nombre de 25 personnes, auxquelles il est bon d'ajouter une assez raisonnable suite de filles d'honneur et de chambellans. Le maréchal de Richelieu avait résolu de leur donner la clé des champs, mais avant de lâcher prise, il imagina de leur offrir à souper, ce qui mit ses officiers de bouche au désespoir. Mais quand monsieur de Richelieu avait résolu quelque chose, il fallait que la chose s'exécutât. Il réunit tous ses officiers de bouche. Qu'avez-vous à la cantine, messieurs? Leur demanda-t-il. Monseigneur, il n'y a rien. Comment rien? Rien du tout? Mais pas plus tard qu'hier, j'ai vu 2 cornes passer par la fenêtre. C'est vrai, monseigneur, il y a un bœuf et quelques racines, mais que voulez-vous faire de cela? Ce que je veux faire? Mais pardieu, j'en veux faire le plus beau souper du monde. Mais monseigneur, on ne pourra jamais. Allons donc, on ne pourra jamais. Rudière, écrivez le menu que je vais vous dicter, pour mâcher la besogne à ces ahuris de chaillot. Savez-vous comment on écrit le tableau d'un menu, Rudière? Mais monseigneur, j'avoue. Rendez-moi votre place et votre plume. Et voilà le généralissime qui s'assied à la place de son secrétaire et qui improvise un souper classique, un menu qui a été recueilli dans la collection de Monsieur de la Pouplinière. Et voici comment il est inscrit dans les nouvelles à la main. Menu d'un excellent dîner tout en bœuf. Dormant. Le grand plateau de vermeil avec la figure équestre du roi, les statues de Duguesclin, de Dunois, de Bayard et de Turenne, ma vaisselle de vermeil avec les armes en relief écaillées. Premier service. Une ouale à la garbure gratinée au consommé de bœuf. 4 hors-d'œuvre. Palais de notre bœuf à la sainte Manhould. Petit pâté de haché de filet de bœuf à la ciboulette. Les rognons de ce bœuf à l'oignon frit. Gras double à la poulette au jus de citron. Relevé de potage. La culotte de bœuf garnie de racines au jus. Tournez grotesquement vos racines à cause des Allemands. 6 entrées. La queue du bœuf à la purée de marron. Sa langue en civet à la bourguignonne. Les paupières du bœuf à l'estafoulade aux capucines confites. La noix de notre bœuf braisée au céleri. Rissolé de bœuf à la purée de noisettes. Croûte rôtie à la moelle de notre bœuf. Le pain de munition vaudra l'autre. Second service. La loyau rôti. Vous l'arroserez de moelle fondue. Salade de chicorée à la langue de bœuf. Bœuf à la mode, à la gelée blonde mêlée de pistache. Gâteau froid de bœuf au sang et au vin de Jurançon. Ne vous y trompez pas. 6 entremets. Navets glacés au suc de bœuf rôti. Tourte de moelle de bœuf à la mie de pain et au sucre candi. Aspic au jus de bœuf et aux zestes de citron praliné. purée de cul d'artichaut au jus et au lait d'amande, beignet de cervelle de bœuf mariné au jus de bigarade, gelée de bœuf au vin d'Alicante et au mirabelle de Verdun. Et puis tout ce qui me reste de confiture ou conserve. Si par un malheureux hasard ce repas n'était pas très bon, je ferais retenir sur les gages de Marais et de Rouquelaire une amende de 100 pistoles. Allez, et ne doutez plus. Richelieu. Monsieur de Vimeau, qui raconte volontiers cette anecdote, ne manque jamais de l'accompagner de savants commentaires. Selon cet habile opérateur, la tourte à la moelle demandée par le galant maréchal est un mets hérétique. Le pied de bœuf à la poulette est oublié à tort sur le menu. Les beignets de cervelle sont un hors-d'œuvre et ne sauraient devenir, même de par le vouloir de l'irrésistible duc, un entremets. Monsieur de Vimeau fit observer que pour le malheur du menu bovin, le gras double à la mode de Caen était inconnu au XVIIIe siècle. Sans le bœuf, dit Buffon, on aurait beaucoup de peine à vivre. La terre demeurait inculte. Les champs et même les jardins seraient secs et stériles. Il est le domestique de la ferme, le soutien du ménage champêtre. Il fait toute la force de l'agriculture. Et aussi les anciens regardaient-ils comme un crime de se nourrir de sa chair. Pline raconte qu'un citoyen fut banni pour avoir tué un bœuf. Valère Maxime dit la même chose. Les Grecs modernes n'en mangeaient point, par respect pour l'animal laboureur. Dans les villages hindous, celui qui mange de sa chair est regardé comme infâme. Les Égyptiens consultaient le bœuf Apis comme un oracle. C'est peut-être par un reste de cette vénération qu'à Paris, on promène chaque année le bœuf gras. Cet animal change de nom d'après son âge. Il est d'abord veau, puis bouvillon et enfin bœuf. Il y en a de plusieurs espèces, de plusieurs grandeurs et grosseurs, et ceux d'Égypte, par exemple, sont plus gros que ceux de la Grèce, de même qu'en France, nos meilleurs bœufs sont fournis par l'Auvergne et la Normandie. Lors de la découverte de l'Amérique, on n'y trouva pas de bœufs, mais importés par les Espagnols, il s'y multiplia considérablement et est devenu, depuis, un des mets favoris des Américains, qui, comme les Anglais, proclament à tout et pour tout la supériorité du bœuf sur les autres viandes. Sa chair est celle qu'on emploie le plus généralement. Elle nourrit bien et la digestion s'en fait facilement quand elle est de bonne qualité. Elle n'est cependant pas aussi bonne dans tous les pays. Elle diffère aussi d'après les pâturages. La viande est excellente quand l'animal est jeune et gras et convient en général à tout le monde, mais plus encore à ceux qui ont un bon estomac, qui font beaucoup d'exercices et qui ont besoin d'être bien nourris. Les personnes sédentaires, les convalescents, les estomacs faibles ne doivent en faire usage qu'après avoir consulté leurs forces. La viande de bœuf est aussi celle qui donne le meilleur bouillon. Nous allons indiquer maintenant quelques-unes des nombreuses manières d'accommoder le bœuf et de le manger. Les parties les plus recherchées sont la culotte, la loyau, la noix, les entrecôtes, les côtes et la poitrine. L'épaule, que les bouchers nomment paleron, est inférieure aux parties élancées. Le flancher, le collier et la tête sont les parties les moins estimées, comme le filet mignon et ce qu'il y a de plus délicat. Laissons de côté la cervelle qui est rarement bonne chez le bœuf. Attendu, l'habitude qu'on a en France de les assommer. On fait de la langue et du palais, sous diverses formes, des mets assez délicats. Les rognons sont ce qu'il y a de plus grossier dans le bœuf, quoique ce soit souvent avec eux que l'on fasse des rognons au vin de champagne. Comme il semble que la destination naturelle du bœuf soit de faire du bouillon, commençons l'énumération des plats qu'il fournit par celle de bœuf bouilli. Le bœuf bouilli est fort méprisé des gastronomes, qui l'appellent de la viande sans jus. Mais il est la providence des pauvres gens et des petits ménages, à qui il fournit non seulement le dîner du jour, mais le déjeuner du lendemain. Nous dirons plus tard, à l'article bouillon, la manière de faire le bouillon le meilleur possible. Ici, nous ne nous occupons que du bœuf. La manière la plus habituelle de servir le bœuf, et hâtons-nous de dire que dans ce cas, le morceau qui offre le plus de sapidité est la pointe de culotte. La manière, disons-nous, la plus habituelle de servir le bœuf est, après l'avoir fait égoutter, de le servir sur un plat entouré soit de persil, soit de pommes de terre frites, soit d'une sauce tomate, soit d'oignons glacés.